tout est fait déjà. Bonjour à tous. Désolé. On est parti dans un éclat de rire. Alors bonjour à la queue de whisky. Regardez, la queue de whisky vous dit bonjour. Attends, on a un serpent en fait dans Texcope ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Samuel nous dit qu'on nous reçoit bien. Parfait. J'espère que vous allez bien, super dans la chatroom. Bonjour à tous.
Salut Thierry, salut Rémi, salut Pascal, salut Jean-Pierre, salut Yves, salut Damien que j'ai vu, salut Samuel, toujours le premier, salut Pascal.
On fait plus hein, les saluts de tout le monde hein, maintenant, parce que j'ai remplacé ça par les tipeurs en fait.
Bah pas moi.
J'en accorde nos violons.
J'adore, il fait des updates mais il me les communique pas.
Oui, c'est vrai, en plus, celle-là, je ne te l'ai pas communiquée. Allez, on aimerait remercier nos tipeurs du jour. Nos tipeurs du jour, c'est Nicolas, Laura Affaire, Notmarx30, Makumi et Deluxe. Deluxe, des tipeurs, tout ça, c'est des tipeurs 18 ou 17 mois. On est dans la catégorie. Donc, on vous remercie, les tipeurs, pour votre fidélité, le soutien à nos émissions et à l'ensemble de la production Nowtech. Sans vous, nous ne serons rien. Un tipeur vous manque et tout est dépeuplé, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. N'oubliez pas d'ailleurs pour les tipeurs qui manquent de renouveler vos cartes bleues.
Alors, petite info, oui, j'ai le nez rouge très facilement quand je rigole, quand je pleure, quand il fait froid. Bref, à peu près 99% du temps.
Marion est un clown. Vous ne le saviez pas, mais Marion est un clown. Tant que ce n'est pas un clown tueur, ça va. J'ai pas trop peur.
Bah, tu le sauras quand tu seras mort.
Ok, un Texcope qui commence sur les chapeaux de roue, sous des signes bien funèbres. Marion, funeste, oui. De quoi on va parler ce matin? C'est toi qui vas commencer.
Et on va parler sous-sous. Après avoir dépensé vos sous avec le Black Friday et la semaine dernière et même aujourd'hui, ben on continue à parler sous-sous, mais cette fois-ci avec les crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin qui a encore explosé les records de d'estimation de valeur.
C'est fou. C'est complètement fou.
Il y en a qui doivent se frotter les mains. Mm. Et il y en a qui doivent se mordre les doigts de ne pas en avoir pris.
Ouais, mais je dirais que c'est un peu trop tard.
On en parlera tout à
l'heure. On fera un crochet effectivement vers le Cyber Monday, hein, le Black Friday prolongé, maintenant c'est le Cyber Monday. Mais ensuite, on parlera de Twitch d'Amazon, qui cartonne dans le domaine du game streaming qui est le secteur en poupe, n'en déplaise à Monsieur Ardisson, qui cartonne et finalement s'apercevra. On s'était dit en 2014, mais pourquoi Amazon rachète Twitch, on comprend aujourd'hui.
Et puis, on continuera avec une petite fonctionnalité qui est en train d'être testée sur la plateforme Twitter et qui potentiellement vous fera plaisir. Vous allez m'en dire des nouvelles tout à l'heure et ça viendra concurrencer les applications de type Pocket.
Il n'y a pas de Texcope en ce moment sans un petit article sur l'iPhone 10. Donc, on a l'article sur l'iPhone 10 du jour. La demande en iPhone 10 reste très élevée. On a quelques preuves, mais parce que certains ont pu se poser des questions sur le fait que les stocks ont l'air d'être au beau fixe et même beaucoup sont livrés en avance, dont nous d'ailleurs.
Ouais, parce que Patrick aussi.
Patrick aussi a été livré en avance.
Et puis on parlera, alors je sais qu'il y a des nostalgiques de Pokémon Go hein, dans la chatroom, ça vous manque hein, la période où on ne faisait que parler de Pokémon Go, et ben là on fera un petit revival, donc on parlera de Niantic, hein, la société qui avait créé le jeu, et on parlera notamment d'une levée de fonds plutôt intéressante, hein, assez spectaculaire, et les projets qu'ils ont.
On parlera également de l'ingénieur français qui se cache derrière les révélations des failles de Wiko et de OnePlus. Qui est-il? Comment se nomme-t-il? Où va-t-il? Nous en saurons plus dans cet article.
Et puis, je vous en avais parlé la semaine dernière, l'annonce du piratage des informations des utilisateurs et des conducteurs chez Uber. Et ben voilà, les gouvernements ne sont pas contents, et notamment le gouvernement français qui tape un peu du poing sur la table et qui demande des éclaircissements sur qu'est-ce qui a été piraté Et notamment, est-ce que des Français sont concernés? Probablement, bien sûr que oui. Et quelles sont les mesures entreprises par la société?
Et ce lundi, c'est le grand retour du porn en dernier article de TechScope. Plus spécifiquement, Microsoft a déposé un brevet pour une technologie qui permettrait d'activer le mode privé automatiquement quand vous allez voir du porn. Donc bonne nouvelle, hein, on va dire ça, on en parlera en fin d'émission. Eh bien Marion, je crois que nous avons, comme tu dirais, un sommaire bien dodu. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite. Est-ce que la chatroom est prête ce matin? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Bonjour au cul du chat, hein? Vas-y, Whisky vous fait un petit bonjour de la queue. Ah, bonjour! Bonjour à tous! Whisky, allez. Regarde, ce qui est drôle, c'est que si je me mets là, j'ai le chapeau de David Croquette. Désolé, ce matin, le chat est intenable et nous aussi.
Il arrête pas de faire des conneries et du coup, on a du mal à garder notre sérieux.
Ouais, un petit peu. Je sens que ça va être l'attraction de... Whisky va être l'attraction du jour.
Il aime ça en plus.
Ah ouais, non, mais il sent bien qu'on le regarde. Bon. Hop, allez. Marion, c'est à toi de commencer. La chatroom a l'air prête. Ils sont morts de rire, ils arrivent plus à taper dans le...
Oui, bien réveillé, je viens déjà d'appeler Orange. Eh ben dis donc, pour commencer la semaine du bon pied.
C'est bien, c'est bien.
Donc on commence justement avec un record de d'estimation de valeur pour le Bitcoin. Bitcoin fait partie de ces crypto-monnaies qui sont très très connues, c'est même la plus connue hein, aujourd'hui. On a parlé beaucoup aussi dernièrement de l'Ethereum. Je ne sais jamais comment on prononce le nom, mais on va dire Ethereum.
Ether, ça fait genre je sais, quoi.
Oui, d'accord. L'Ether. Du coup, voilà, il y a eu le Bitcoin Cash, qui a été le fork qui a été fait dernièrement sur Bitcoin. Mais bon, voilà, on parle de plus en plus du Bitcoin. Justement, celui-ci n'en finit pas de grimper dans son estimation de valeur. Et il a dépassé les 9000 dollars ce dimanche, qui est une somme assez impressionnante. À savoir, petit rappel, en avril dernier, donc depuis le 20 avril, il était évalué à 1 200 $. Donc il y a eu quand même une augmentation de plus de 650% de la valeur d'un Bitcoin.
C'est absolument énorme.
Énorme. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y en a qui doivent se frotter les mains. Moi, on en parle pas mal hein, au boulot des crypto-monnaies quels sont les projets qui sont intéressants. Parce qu'en fait, il y a la crypto-monnaie, mais surtout, il y a les projets qui portent les cryptocurrencies.
Les ICO, ouais.
Oui, exactement. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, pourquoi il y a du coup des grosses progressions auprès du Bitcoin? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du Bitcoin, notamment... Alors, il y a eu des choses mauvaises qui se sont passées, notamment les limitations imposées par la Chine qui avaient fait énormément chuter la valeur du Bitcoin. C'était le bon moment d'acheter à ce moment-là parce que du coup, c'était vraiment, vraiment redescendu très, très bas. Alors, il me semble que j'avais l'info tout à l'heure jusqu'où c'était redescendu.
Juste pendant que tu cherches, je sais plus quel titre de presse français, ils ont acheté je crois que c'était en genre avril, ils ont acheté pour 80 € de Bitcoin, donc un segment de Bitcoin, je sais plus quel titre de presse, et aujourd'hui ça vaut 1 600 €.
Ah ouais.
80 € de mise, 1 600. Donc, si tu as mis 800 €, ça commence à chiffrer. Enfin, voilà, il y a des fortunes.
Et sachant que lorsqu'on fait ça, on n'achète pas un bitcoin, on achète des morceaux de bitcoin.
Des morceaux de bitcoin. Attention, comme quelqu'un l'a dit dans la chatroom, et ne l'oubliez jamais, vous n'êtes pas gagnant tant que vous n'avez pas vendu.
Bien sûr.
Pour l'instant, voilà.
Ce sont des spéculations. Il faut bien le rappeler, ce sont des spéculations. Vous ne possédez pas l'argent, en effet, tant que vous ne l'avez pas rendu. C'est un peu... ça fait penser aux actions, hein, pour le coup. C'est pas exactement la même chose. Mais il y a une notion de spéculation et tant que
je dirais ce que j'en pense à la fin de ton article.
D'accord. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'aujourd'hui le marché total du Bitcoin, de la crypto-monnaie, vaut plus de 150 milliards de dollars aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant. Pourquoi la valeur augmente? Parce que tout simplement, Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, c'est la crypto-monnaie que tout le monde connaît. C'est le nom que tout le monde entend. Donc, quand on parle crypto-monnaie, quand on pense à investir dans la crypto-monnaie, on pense Bitcoin en premier. Ceux qui ne s'y connaissent pas vont d'abord s'intéresser à ce nom-là. Deuxièmement, il y a de plus en plus de banques qui s'y intéressent, notamment Goldman Sachs, etc., potentiellement pour les faire rentrer, ça va potentiellement leur ouvrir la bourse, etc. On n'y est pas encore du tout, mais en tout cas, les banques s'y intéressent. Donc, évidemment, ça aussi, ça va ça joue en faveur du Bitcoin. Également, la Chine, il y aurait des rumeurs d'assouplissement sur les régulations imposées aux crypto-monnaies. Donc évidemment, là aussi, ça fait plaisir. Bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs favorables en faveur donc du Bitcoin. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le sujet ?
Ouais, néanmoins, pour moi, bien évidemment, quand y a un truc qui a autant de valeur et surtout qui fait du 650%, tu te dis « merde, j'aurais dû en acheter ». Aujourd'hui, est-ce que j'en achèterais ? Certainement que non. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, c'est mon analyse, mais je me trompe peut-être. Et je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin, mais je m'y connais un petit peu, effectivement, en bourse. On n'est pas dans le cas des actions. Moi, ça me fait quand même penser, et je ne suis pas le seul, hein, y a beaucoup d'économistes qui disent, on ne va pas parler de bulle spéculative parce que ça veut rien dire, mais on est un petit peu dans de la spéculation sur la spéculation. C'est exactement, alors, les livres d'histoire, vous souvenez-vous de vos cours d'histoire peut-être, c'était au XVIIe siècle, je crois, en Hollande, ce qu'on a appelé la tulipomanie. Ça a été une espèce d'inflation complètement incroyable sur les oignons de tulipes. Qui sont mis à avoir des valeurs complètement folles, plus du tout réalistes, mais c'est même pas là le problème. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, il y a des gens qui arrivent sur ces marchés et qui se disent « si ça vaut aussi cher, c'est que ça doit valoir plus cher ». Donc, je surinvestis. Ça, généralement, c'est effectivement des choses qui se terminent mal. En règle générale, ça se termine mal parce qu'on n'est plus du tout dans des notions de valeur, de la valeur même intrinsèque d'un produit. On n'est plus que sur de la valeur spéculation sur la spéculation elle-même.
Après, c'est aussi la quantité limitée de Bitcoin qui fait aussi grimper la valeur.
Bien sûr. C'est pour ça que c'est considéré comme un truc refuge. Oui, mais les oignons... Enfin bon, on va pas refaire une page d'histoire, mais c'était la même chose. Il y avait une rareté sur les oignons de tulipe aussi qui faisait grimper leur valeur initiale. Mais après, ça s'est transformé en quelque chose qui s'est auto-entraîné. Après, voilà, faut pas se mentir. Ça peut être à 9000, mais quand on atteint ces niveaux-là aussi vite... Ça veut dire que ça peut redescendre très vite aussi.
Mais c'est ce que je disais, justement. Donc ça, vous avez vu, hein, 650% de croissance d'augmentation depuis avril dernier. C'est très, très, très récent. C'est incroyable. Par contre, justement, quand la Chine avait fait l'annonce de la régulation très stricte, il y avait une chute de 40% de l'estimation de valeur du Bitcoin. Donc attention, ça reste quand même très, très instable. Donc on n'est pas en train de dire c'est l'Eldorado, faut absolument acheter du Bitcoin et compagnie. C'est votre responsabilité à vous de savoir sur quoi vous investissez. Hein. De toute façon, c'est le principe pour tout type d'investissement.
Le principe, c'est que là, à ces valeurs-là, acheter aujourd'hui est extrêmement risqué parce que la chute risque d'être dure. Quelque part, pour moi, je pense que c'est trop tard pour s'y mettre.
Après, il y a d'autres crypto-monnaies.
Oui, il y a d'autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin, pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard, il fallait s'y mettre il y a un an, quoi, pour vraiment faire
ou attendre une potentielle grosse chute,
exactement,
comme il s'est passé lorsque la Chine a annoncé les régulations. Ça peut faire peur, et un coup de peur peut donner une opportunité pour acheter. Et moi, je sais qu'il me semble que j'ai pas mal de collègues qui ont profité coup de peur de la Chine pour investir. Pouvoir acquérir un peu plus de Bitcoin.
De toute façon, quand les banques commencent à s'intéresser à quelque chose, donc les traders, on va dire historiques, les traders commencent à s'intéresser à quelque chose, vous pouvez vous dire que c'est trop tard. Parce que ces mecs-là achètent une certaine forme de... Enfin, ils misent aussi sur les pertes. Enfin, c'est un peu plus compliqué. En gros, les boursicoteurs tous les jours, ceux qui font vraiment des échanges tous les jours, n'ont pas le même raisonnement que nous. Et ils n'ont pas le même argent que nous parce qu'ils achètent souvent un crédit. Donc là, le fait que les banques s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies est plutôt un signe pour moi de « ok, c'est trop tard ». Mais bon, ça c'est moi. Ça c'est moi. À voir. Voilà. En tout cas, on le souhaite hein, pour ceux d'entre vous qui auraient des bitcoins, de revendre au bon moment. Parce que tout le jeu, c'est ça, c'est de revendre au bon moment. C'est dur de revendre parce qu'on se dit « Ah ouais, mais si ça monte encore à 10 000, je vais perdre 1 000 ». C'est dur de revendre, mais il y a un moment où il faut revendre. Si tu veux gagner, il y a un moment où il faut revendre.
Il faut savoir attendre aussi. Hein.
Ouais, ouais. Bah, moi, je sais que par exemple, quand j'avais vendu mes actions Apple, elles ont continué à grimper après. Donc, il ne faut pas trop regarder après parce que tu dis « Ah, j'aurais gagné 500 euros de plus si j'avais attendu encore 2 mois, machin. » Mais bon, bref, moi, je m'étais fixé, moi, personnellement, ma manière de faire, c'est que je me fixe un pourcentage. Quand une action a fait tant de pourcents, je la revends, quel que soit l'état du marché. Et je me fixe à cette règle depuis que j'ai des actions. Je me suis toujours fixé à ça. Voilà, voilà.
On continue avec thématique de l'argent.
Thématique de l'argent, on va parler de sous-sous. Alors, le Black Friday se transforme en Cyber Monday, hein, puisque, effectivement, vous le savez, historiquement, donc il y avait le Black Friday, ça se passait plutôt dans les magasins physiques.
Et puis, c'était avant Thanksgiving.
Ouais, mais maintenant, ça veut un peu rien dire, parce que les gens font leur Black Friday sur Internet. Enfin, quoique, jusqu'à arriver à New York, on voit qu'il y a encore des ruées dans les magasins. Il y a une personne qui se fait écraser, c'est ça ?
Je connais pas les détails, mais en tout cas, il y a une personne qui est morte, qui est décédée, malheureusement, le jour du Black Friday à New York.
Écrasée par un écran plat. Enfin bon, c'est là on est dans l'horreur de la consommation. Hein. Ouais. Je dirais que c'est absolument ignoble. Bref, on va pas jeter non plus. C'est effectivement quand même l'occasion de faire des bonnes affaires. Alors, ce qu'on a à vous annoncer ce matin, c'est que le lien Bit.ly qu'on vous donne depuis le début du Black Friday fonctionne aussi pour le Cyber Monday. C'est le même lien. Donc, c'est bit.ly/AmazonBFNT. Hein, pour le lien d'affiliation lié à notre chaîne. Comme merci, ça, vous faites des bonnes affaires et vous soutenez la chaîne. Merci en tout cas à tous ceux qui ont utilisé ce lien sur Amazon ces derniers temps. Ça nous aide beaucoup. Alors, moi, j'ai fait une petite sélection, effectivement, aujourd'hui. Il y a toujours le Kindle hein, qui est intéressant à 90 euros. Ah, il est repassé. Non, il est toujours à 90 euros.
En fait, il est à 90 euros avec les annonces spéciales. Donc, c'est la pub à chaque fois que tu allumes le Kindle.
Ah oui, d'accord.
Et il est à
90, à 100.
À 100, ouais, quand tu le prends sans les offres. Et d'accord. J'avoue que c'est 10 euros et t'as pas la pub, quoi.
D'accord. Moi, la sélection que je vous ai fait ce matin, ce que j'ai trouvé d'intéressant ce matin, il y a le Honor 9. Je vous en avais parlé dans une vidéo, le Honor 9. Il va être à 349 euros aujourd'hui sur Amazon. Donc ça, c'est pas mal. J'avais eu un jugement relativement mitigé sur le Honor 9, mais c'était lié aussi à son prix et je dirais le manque de novation par rapport au Honor 8. Mais ça reste un bon smartphone. À ce prix-là, à 349, ça peut être un bon smartphone. Il y a un pack PS4 avec Destiny 2 et GTA 5 à 290 euros aujourd'hui sur Amazon, donc pas mal le petit pack PS4. Une caméra Logitech qui est bien connue, c'est une des meilleures, hein. C'est la C920, c'est une webcam Full HD avec micro intégré, si vous voulez faire du Twitch ou ce genre de choses, à 53 euros aujourd'hui, donc ça c'est pas mal aussi comme prix. Un kit d'initiation, enfin vraiment pour débuter, Philippe Hue, à 35 euros aujourd'hui, avec une ampoule et la télécommande qu'on a testé ce week-end, ça marche bien, la télécommande Hue, c'est vraiment bien. Et toujours effectivement le ruban lumineux Hue, ça je trouve c'est une des meilleures affaires parce qu'il est cher, hein, normalement, ce ruban.
Bah, même, tu sais, les ampoules flammes, l'offre avec 3 ampoules, elle est hyper intéressante.
Ouais.
Hein.
Il y a des bonnes offres sur les Hue, hein, quand même, aujourd'hui. Là, le light strip 2 mètres plus l'extension 1 mètre, donc 3 mètres de ruban lumineux pour 65 euros, c'est pas mal, c'est pas mal du tout.
C'était un poil moins cher la semaine dernière.
Oui, c'était un poil moins cher la semaine dernière, mais il faut en profiter quand même si vous voulez vous équiper. Il y a plein d'autres offres, hein, on ne va pas vous les faire.
Les enceintes Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 à 99 au lieu de 199, c'est pas mal.
Voilà, il y a pas mal d'offres.
Ah, t'as acheté le Cosmo, le petit robot Cosmo pour ton fils. Merci, oui. Jean-Christophe. Et du coup, ça sera intéressant que tu nous dises ce qu'il en a pensé. Je sais pas si tu connais le petit.
Oui, je connais.
Il est tout mignon.
On m'avait proposé de le tester pour la chaîne, mais je n'avais pas le temps. À noter aussi, hein, 3 ou 4 homards bleus bretons vivants, Hein, si, si, vivant, on vous les livre vivants. Eh bien, au prix incroyable de 100 € pour 3 à 4 homards bleus bretons vivants. Hein, bien sûr, pas pour les manger. On ne va pas être cruel et manger des homards vivants. Hein, mais c'est pour avoir un bon animal de compagnie. Vous savez, des petits homards comme ça posés sur votre canapé ou sur votre épaule. C'est toujours assez classe. Vous arrivez dans une soirée.
Donc vous en avez marre du chat qui perd ses poils dans l'appartement. Le homard, ça peut être une solution.
Tout à fait. On se moque, mais c'est très cruel. C'est bon le homard, mais c'est très cruel quand même.
C'est bon.
C'est bon et c'est vrai qu'il faut les cuire vivants, c'est horrible, c'est une torture.
Il faut les ébouillanter.
Ouais. Ouais. Mais c'est horrible. Mais c'est bon. Mais c'est horrible. Mais c'est bon. Mais c'est horrible. Marion, je te propose. Je sens que je ne vais pas me faire que des amis aujourd'hui. On va continuer. C'est à moi de continuer puisqu'on va parler d'Amazon.
Mais non, c'est à moi, non ? Peut-être tu vas me laisser la parole un peu après le Cyber Monday.
Ben non, c'est à moi. Toi, tu as fait Bitcoin.
J'ai commencé par ça. T'as enchaîné sur le Cyber Monday ?
Ah ouais, c'est peut-être à toi, ouais. Ah ouais, c'est tout.
Non, mais Jérôme, ce matin, il veut faire l'émission tout seul. Hein.
Autoroute.
Voilà. Donc. Les Bluetooth, les casques Bluetooth Bose et Sony toujours en promo. Non, je ne craquerai pas.
J'adore les Sony MDR. Acheter des Sony MDR.
C'était comme le plombier. Il n'y a pas un plombier dans la rue.
Si, il y a un plombier dans la rue qui s'appelle MDR Service. Tu as vraiment envie d'appeler un plombier qui s'appelle MDR Service, quoi.
Bref, merci. Oui, c'est à Marion. Merci. Merci de restaurer la vérité. faut se battre pour avoir sa place dans l'émission.
Ouais, ouais.
Et donc, moi, je voulais vous parler, mais très rapidement, de Twitter avec une nouvelle fonctionnalité qui est en train d'être testée. Donc, c'est pas la peine de vous tous de vous précipiter sur l'application Twitter. En tout cas, moi, j'ai pas la fonctionnalité encore disponible. À mon avis, elle est testée aux États-Unis, très probablement. Et donc, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Tout simplement, c'est un marque-page, un bookmark où vous pouvez sauvegarder tout simplement les tweets qui vous intéressent pour les lire plus tard. Alors, bien sûr, on le sait, hein, un des grands principes de Twitter, c'est la fraîcheur du contenu, pouvoir voir les articles au fur et à mesure qu'ils paraissent. Et souvent, on suit de plus en plus de monde et on a un fil Twitter de plus en plus encombré. Et c'est un problème pour consommer le contenu sur Twitter. Et donc là, ils pensent, avec cette fonctionnalité de bookmark, permettre aux personnes de pouvoir sauvegarder comme le principe un peu d'un flux RSS, où vous avez vos flux RSS et vous allez mettre en marque-page les articles que vous souhaitez absolument lire, ou tout simplement marquer comme lu ceux qui ne vous intéressent pas. Et ben là, en fait, c'est un peu le même principe. Vous allez pouvoir sauvegarder les tweets qui vous intéressent le plus pour pouvoir y revenir plus tard et les garder dans une espèce de petite liste. Donc voici comment ça se présente. Je vais vous montrer très rapidement. Ah merde. Génial.
Fail.
Gros fail. Voilà la petite capture, comment ça se présente. Donc, vous voyez dans votre profil, tout simplement, vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle Bookmarks, donc sûrement pour nous marque-pages, qui va faire son apparition. Donc, ça peut être potentiellement assez pratique. Après, rappelez-vous, il me semble, on a eu le favori avec la petite étoile qui est devenu ensuite le cœur, parce qu'on avait deux usages, l'usage des personnes qui le mettaient en favori pour pouvoir y revenir plus
c'est
tard,
le cœur,
et le cœur pour dire juste j'aime, et donc on peut pas facilement retourner au cœur, il faut aller les chercher un petit peu plus loin. Et là, les bookmarks, ça permettrait de les trouver plus facilement.
Franchement, moi, j'attendais ça carrément. Parce que alors, moi, ce que je faisais, c'est que du coup, les tweets avec des articles qui m'intéressaient à lire plus tard, j'étais obligé de me les mettre sur Flipboard dans un magazine que j'ai en privé qui s'appelle Pige, avec les articles qui m'intéressent. Quoi.
Ouais.
Donc là, c'est bien si on peut les marquer. On peut les marquer directement.
Et du coup, ça vient vraiment concurrencer toutes les applications type Pocket et compagnie. Alors là, ça va se limiter évidemment aux tweets, mais de plus en plus de personnes utilisent Twitter là-dessus, sur ce sujet.
Moi, je me vois bien, je verrai si ça marche, ouvrir un Flipboard qui sera lié à mes marque-pages Twitter. Comme ça, les articles dans la journée que je vois sur Twitter qui sont intéressants, bim, je les ai tout de suite dans un magazine Flipboard. Ce que j'aime bien, Flipboard. On va pas réavoir le débat. Est-ce que vous, ça vous plairait d'avoir des marque-pages sur Twitter ? Ça
Attends,
vous semble une bonne
j'ai
idée ?
Vu un commentaire de juste. Dans ce sens, ils ont changé l'ordre des faves. Maintenant, ils s'affichent dans l'ordre où on les a mis en favori et pas dans l'ordre où ils ont été tweetés.
Oui, ça
ce qui
c'est
fait
vrai.
Assez sens. Oula.
J'adore. I got banned. Oui, ben, je comprends que tu as été banned. On va laisser peut-être la chatroom.
Qu'est-ce qui. Ce malaise.
Ce malaise. Non, on parle de. Je pense que c'est quand on a parlé de Flipboard qui a créé un malaise. Yep. J'adore. I got banned a été exclu par Paladin Bleu. Paladin a frappé un grand coup de bouclier sur le. ouais, ça vous plairait bien d'avoir un marque-page dans Twitter, ça vous semble une bonne idée, la chatroom? Hein, moi, ça me semble une très bonne idée. Mais ils ont plutôt des bonnes idées, Twitter, en ce moment.
Ils ont besoin d'avoir
des idées. Ah bah, c'est sûr, là, c'est un peu... Oui, mais, justement, ils auraient pu paniquer et avoir plein de mauvaises idées, ce qui arrive aussi à pas mal d'entreprises. Ils restent calmes pour l'instant, Jack. Oh, faut dire que oui, il a sa deuxième boîte qui marche bien. Ça permet de rester calme. Ouais, à voir si ça marche cette fois, c'est vrai.
On va voir si ça sera utilisé. Ça sera intéressant de voir les tests.
Tout à fait. Allez, on va parler de Twitch. Twitch qui est en train de dominer, de world domination.
Encore hein, Amazon.
Encore Amazon. Pour ceux qui connaissent iPhone sur YouTube, de world domination. Non, tu connais pas, c'est un YouTuber... Turc turc-américain qui est vachement, vachement bien. Mmh. Bref, là, on va parler de Twitch parce qu'effectivement, on s'était un peu dit en 2014 quand Amazon avait racheté Twitch. What the fuck? Pourquoi Amazon rachète Twitch? C'est un truc pour des gamers qui font du streaming de jeux. C'est niche, c'est un peu bizarre. Après, on a eu Antoine Decaune, on a eu récemment... Ardisson, qu'est-ce que c'est? Mais les gens regardent des gens qui jouent.
Il y a aussi la peur que Amazon se disperse beaucoup parce qu'ils sont dans beaucoup beaucoup de secteurs et c'est toujours inquiétant.
Oui, mais ça leur a plutôt réussi en fait.
Ça dépend où.
Là, tu vois, aujourd'hui, alors justement, c'est ce qu'on a à vous dire, Twitch va extrêmement bien. Ils l'ont racheté pour moins d'un milliard de dollars. Hein. Ils l'ont acheté 970 millions de dollars. Aujourd'hui, Twitch, le marché en tout cas du streaming du jeu vidéo est pronostiqué pour générer un excédent de 5 milliards de dollars en 2017 et eux sont largement dominants sur ce marché du game streaming. Pourquoi ils génèrent autant de bénéfices? C'est parce que des grandes marques comme Microsoft, Alphabet, donc Google, Twitter investissent beaucoup là-dessus. C'est une plateforme publicitaire très intéressante parce que finalement, on a une concentration de gens qui sont intéressés par la tech, par du matériel, par du jeu vidéo, qui sont en général d'assez bons consommateurs, hein, on peut le dire. Et que c'est un marché qui a pris 20% en un an de nombre d'abonnés sous Twitch. Donc, c'est vraiment un marché qui cartonne. Et effectivement, moi, pour en regarder de plus en plus... Il y a que les vieux cons comme Ardisson pour ne pas comprendre l'intérêt de regarder des gens jouer. En fait, c'est super intéressant comme contenu. C'est un contenu live. Après, il y a des bons et des mauvais. Hein. Il y a des bons présentateurs et des mauvais.
Et même, il y a aussi Twitch qui essaie de se diversifier, hein, même s'ils sont toujours catalogués de plateformes de streaming, de gaming. Ils ont plein de catégories quand même.
Il y a un sel particulier au gaming live, je trouve, qui va être difficile de reproduire sur d'autres types de contenus. On est à mi-chemin entre du commentaire sportif, mais en même temps, c'est plus technique que du... Je ne sais pas comment dire. Disons que je comprends à travers Twitch ce que quelqu'un qui est passionné de sport peut trouver dans une bonne présentation de sportif, quoi. Une bonne analyse, une dynamique. Puis il y a une énergie dans des commentaires de jeux vidéo. Après, ça dépend complètement des jeux vidéo. Moi, je regarde pas mal de tweets sur Total War, Warcraft 2, auquel je joue en ce moment. Là, c'est beaucoup plus modéré. Ça parle stratégie, machin. Mais il y a des mecs qui sont très, très bons, quoi. Revenez au livre. Arrêtez de jouer.
L'un n'empêche pas l'autre, hein.
Le Vanneur Ardisson, c'est du second degré. Oui, on sait qu'Ardisson aime bien faire de la provoque et qu'il a fait ça avec... Mais bon, il y a le bon et le mauvais présentateur. Oui, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, effectivement. Je suis un père désespéré de voir mon fils de 12 ans regarder des gars jouer à des jeux. Ben écoute, non, pourquoi pas? C'est,
Tant que ça reste dans une consommation raisonnable, c'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas qu'il passe 24 heures sur 24 devant son écran, mais ça, c'est valable pour toute activité. Ce n'est pas bon de pratiquer du sport à l'extérieur 24 heures sur 24 non plus. Donc, tant que c'est fait en modération, déjà, c'est-à-dire qu'il a, il est intéressé par quelque chose. Et puis, selon ce qu'il regarde, ça peut faire appel à de la stratégie, de la réflexion, etc. Donc, c'est aussi intéressant que la personne, quand il joue à des jeux vidéo, il mette en place des techniques, des stratégies et compagnie. Il y a vraiment une réflexion là-dessus. C'est pas, ça dépend des jeux, évidemment. Ouais. Mais...
Et puis, au-delà de ça, ça montre aussi un vrai intérêt pour le live sur Internet. Là, on ne va pas parler d'HQ ce matin, l'appli que j'avais présentée.
Ah, c'est incroyable.
Tu sais qu'elle cartonne.
Mais oui, je comprends
Ils
pourquoi.
Ont 700 millions de viewers.
C'est addictif, hein,
c'est de la folie. Et putain, j'aurais trop aimé lancer ce truc-là. Mais bon, bref.
Et franchement, c'est bien fait. Hein.
C'est hyper bien.
Les présentateurs et tout, comment ils parlent, ils ont le rythme et tout. C'est vraiment...
HQ, ça s'appelle HQ. J'en avais parlé il y a quelques temps de cette application qui est en fait du quiz, hein, du jeu. Un mélange de jeux télé, de live et de jeux sur ton mobile. Et putain, c'est super bien fait, c'est trop.
Alors tu nous
trop,
dis,
trop
mais pour le bricoleur que tu es, c'est difficile. Après, les deux sont pas complètement séparés l'un de l'autre. Il y a qu'à voir un peu Minecraft où il y a des notions de bricolage ou certains jeux qui permettent de développer des robots avec du code, etc. Enfin. Je pense qu'il peut y avoir la croisée des chemins entre du bricolage que physique et du jeu vidéo. Et le but, ça serait peut-être de trouver justement.
Je pense que le secret pour faire un bon live Twitch, pour rester dans l'ambiance, il faut que tu aies un élément. Tu vois, si tu fais du bricolage, il faut que tu aies une horloge qui tourne et tu dis est-ce que je vais arriver à faire tel objet en tant de temps? Tu vois, il faut qu'il y ait un stress. En fait, pour qu'il y ait une dynamique, comme dans un match, tu vois, il faut qu'il y ait une échéance et il faut que tu crées une espèce d'attente et d'accélérateur, en fait, pour que ça marche sur Twitch, je pense.
Non, là, le but, c'est pas forcément qu'il se filme en train de faire du bricolage, c'est de pouvoir échanger avec son fils qui regarde des jeux sur
D'accord.
Twitch. Et lui...
Je croyais qu'il demandait pour faire une chaîne bricolage sur Twitch.
Non. C'est l'inquiétude qu'il a par rapport à son fils qui regarde des jeux vidéo sur Twitch et lui qui est plutôt bricoleur physique.
Ouais.
Et je pense qu'il y a des jeux type Minecraft ou développement qui peuvent justement rapprocher les deux. Ou peut-être aller dans un atelier de makers où ton fils rencontrera des gens qui développent mais qui aussi fabriquent des objets physiques. Et donc ça peut justement... c'est le meilleur des deux mondes en fait.
J'ai fait effectivement une boulette tout à l'heure, j'ai dit Total War Warcraft, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, Total War Warhammer 2. Hein. Mais ça, c'est moi, c'est le lundi matin.
Vous voyez comment je m'y connais, parce que j'ai complètement relevé l'erreur. Hein.
Ah oui, elle m'a donné des grands coups de coude, genre, mais tu dis n'importe
Inadmissible.
Quoi.
Inadmissible. Hein. Amateur.
Oui, un peu. Hein, tu es un casu, mais casu de chez casu, quoi. Jérôme Cazu.
Et donc, on continue.
À toi, sur... Marion.
Oui, merci. je t'ai pris la parole avant que tu enchaînes.
T'as bien fait.
Donc on continue sur la thématique des jeux vidéo. Pas exactement jeux vidéo, c'est un jeu application mobile, puisqu'on va parler de Niantic. Alors Niantic, petit rappel, c'est ceux qui ont lancé Ingress, donc jeu de réalité augmentée. Donc vous vous baladez dans la rue et vous allez avoir un layer de réalité augmentée qui va transformer, ou en tout cas utiliser votre environnement physique, un bâtiment, une place dans une ville, etc., pour le transformer en arène, bref, un lieu où il se passe quelque chose. Et donc, ils avaient... le premier essai, c'était Ingress, qui avait déjà eu pas mal de succès dans le cercle de connaisseurs. Et puis ensuite, ils avaient utilisé la technologie qu'ils avaient développée pour Ingress pour l'appliquer à une franchise. Enfin, pas une franchise, une marque. Enfin,
une franchise.
Donc, Pokémon. Avec Pokémon Go, qui a eu le succès que vous connaissez. On en a quand même longtemps parlé en 2016. Ça a quand même eu un retentissement très très impressionnant, surtout durant l'été, puisque ça a été lancé juste avant l'été. Et donc on était tous dans les rues à essayer d'attraper les Pokémon.
Je me rappelle
avoir croisé, on s'était baladé et avoir croisé des personnes.
C'était sympa au début, ouais.
Qui jouaient à Pokémon. C'était
en
assez
famille
incroyable.
Et tout, c'était ouais. Trop marrant. Ouais.
Il y avait toute la famille qui y jouait, c'était très très sympa. Quand on prend évidemment les précautions qu'il faut, hein, quand on fait quand même attention à son environnement. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des nouvelles pour Niantic. Donc, ils avaient fait au début de leur lancement une première levée de fonds en série A, où ils avaient levé 30 millions de dollars auprès de divers investisseurs, et notamment The Pokémon Company, la société officielle qui détient les droits de Pokémon. Et donc, ça leur avait permis de faire le jeu sur la franchise Pokémon. Et ensuite, là, dernièrement, ils ont fait une nouvelle levée de fonds en série B, cette fois-ci, avec 200 millions de dollars de levée, avec, encore une fois, différents investisseurs. Alors, moi, je ne les connais pas parce que je ne suis pas dans le domaine. Mais qu'est-ce que ça montre? C'est qu'ils ont quand même réussi à transformer l'essai avec Pokémon Go, hein, très certainement, parce qu'il y avait quand même un monde de différence entre Ingress et Pokémon Go. Ils ont eu une adoption de masse grand public impressionnante et aussi une conversion des jeux sur la plateforme mobile dans des événements physiques qu'ils avaient initiés. Alors, ils ont eu divers problèmes lorsqu'ils ont organisé ces événements physiques, mais en même temps, c'est le début. C'est ce qu'il faut se dire, c'est le début. Et là, ils ont tablé, ils ont pour projet de... Je suis sûre que vous êtes déjà au courant, ils ont pour projet de développer le même type de jeu, donc en réalité augmentée, avec la franchise Harry Potter. Donc là, ils vont tabler, en fait, dans des univers déjà où il y a une communauté de fans très, très, très forte, que ce soit Pokémon ou Harry Potter, et pouvoir convertir des personnes avec des jeux en réalité augmentée, pourquoi pas des événements qui vont rassembler ces fans autour d'événements autour de ces jeux-là. Donc c'est quand même très prometteur et assez impressionnant.
Il y a quand même tout un... Enfin, Harry Potter s'y prêtera bien, il y a un bestiaire et... Il y a un nombre de personnages.
Il y a des écoles différentes.
Il y a des écoles différentes. Il y a quatre équipes différentes.
Alors, il y a des écoles différentes et puis il y a des maisons différentes aussi dans l'école. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi. Donc là, ils vont le développer. Hein, ça a été confirmé avec Warner Bros. Interactive, hein, puisque c'est la filière Warner Bros. Qui détient les droits d'Harry Potter. Donc voilà. Moi, j'ai hâte de voir ça. Même si je ne joue plus à Pokémon Go, j'ai hâte de voir ce qu'ils
je
vont
faire. Je sens les deux, trois premiers week-ends de Harry Potter. Potter où on va aller se balader artificiellement dans les parcs à la recherche des Harry Potter.
À voir, parce qu'en plus, il y a le... Je sais pas quand est-ce qu'est censé sortir la suite de Fantastic Beasts.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la suite qui arrive.
Ouais.
Effectivement.
Donc, à voir, on risque d'avoir pas mal de choses autour d'Harry Potter.
Et effectivement, même si Pokémon Go, il y a une grosse chute de notoriété par rapport au pic, ça reste un jeu très joué encore. Hein.
Et puis, quand on parle de Pokémon Go, les gens savent de quoi on parle.
Exactement. Est-ce que, moi, ce qui m'intéresserait, c'est technologiquement, est-ce qu'ils vont incorporer des nouvelles choses de la VR, par exemple, que Apple a développé pour les iPhones? En gros, parce que, soyons d'accord, même si Pokémon Go, on dit souvent que c'était un des premiers jeux à succès utilisant la VR, on avait tous désactivé la VR, tu sais, qui permettait de faire apparaître ton Pokémon dans la rue.
L'AR,
on l'avait tous désactivé. Est-ce que là, ils vont arriver à faire quelque chose avec l'AR qui donnera envie de rester en
AR? Alors, on avait désactivé lors des combats, hein, mais il y avait quand même tout le principe de localisation.
Oui.
Lorsqu'on arrivait près d'un lieu, etc. Donc, tu avais quand même la
notion c'est vrai. Mais augmenté, pas visuel, en tout cas.
Il était, mais beaucoup de personnes, la plupart des personnes l'avaient désactivé.
Pour des questions de batterie aussi.
C'était plus rapide aussi en termes de performance lors des matchs.
Donc, à voir, est-ce qu'ils vont mettre peut-être plus d'intérêt avec des fonctionnalités AR, c'est à voir.
Attention, parce qu'il ne faut pas non plus ensuite créer un avantage qui déséquilibrerait le jeu pour ceux qui ont des iPhone X et ceux qui n'ont pas, qui sont sur Android.
Ouais, enfin, en même temps, sachant que les gens qui ont des iPhone... Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, donc, mais c'est aussi des gens qui consomment plus.
Il y a moyen d'exploiter la technologie sans créer un désavantage.
Non, mais ils peuvent faire la version pour ceux qui n'ont pas des smartphones très compatibles avec l'AR et une version super AR. Quoi.
Oui, mais tu vois, il faut un fair play, tu vois.
Oui, non, mais sans déséquilibrer les mécanismes du jeu.
Exactement. Mais ça risque d'être intéressant. On vous tiendra au courant.
Tout à fait. Et en parlant justement d'iPhone X, on enchaîne sans transition. La demande en iPhone X serait toujours très élevée. C'est vrai que quelques personnes avaient analysé que la mise à disposition de l'iPhone devenant 10 est plus facile, c'est-à-dire toutes les commandes ont été avancées quasiment.
Oui.
Nous, on les a reçues une semaine avant ce qu'ils avaient pronostiqué au moment de la commande. On les trouve relativement facilement maintenant dans les Apple Store, les iPhone X. Donc certains ont dit, ah, donc ça veut dire que la demande n'a pas été énorme et que les stocks sont bons. A priori, d'après l'analyse de KGI...
Pas l'air d'un bleu, pas de fair play, c'est la guerre, vive les serpentards. Ah, ça serait marrant de jouer ensemble.
Ah oui, oui, non, ou les uns contre les autres, t'imagines un outtake drink avec les quatre équipes.
Ce serait dément. Ouais, avec les fans en plus qu'il y a dans la communauté, je sais.
Donc effectivement, l'iPhone 10, j'essaie de
revenir. Excuse-moi.
Non, c'est pas grave. D'après KGI, c'est eux qui avaient un peu... Enfin, c'est une source plutôt fiable. En fait, ils analysent que Apple aurait grandement réussi, parce qu'il y avait une difficulté, à augmenter le nombre d'unités produites par jour. Alors là, accrochez-vous à vos sièges et à votre mug de café ou de... Je vais vous annoncer combien il sort des usines Foxconn en ce moment d'iPhone, entre 450 et 550 000 unités par jour. T'imagines ? 550 unités
déjà,
par jour.
Déjà, ce que j'ai dit, c'est les étudiants, tu sais qu'il y avait...
Oui, ben justement, je vais rebondir là-dessus.
Ils devaient produire, assembler 1200 caméras
ouais,
d'iPhone par jour.
Par jour.
Une personne.
Ouais, non, donc, mais je sais.
Ce chiffre est finalement pas si étonnant que ça.
Et effectivement, là où Apple a réussi un peu le challenge, c'est que les rumeurs disent qu'il n'arrivait, il y a un ou deux mois, qu'à 50 ou 150 000 unités par jour.
Ah
donc,
oui,
grande augmentation. Bon, à quel prix ? On peut se poser la question. On ne va pas revenir sur les étudiants. Tu as déjà fait l'article. Effectivement, Apple a reconnu qu'il y avait un problème chez Foxconn, qui avait fait un peu des stages forcés d'étudiants en les faisant bosser, en plus, de manière illégale.
Avec un nombre d'heures illégales.
Un nombre d'heures illégales. Apple a dit, il y a un problème, on va taper sur les doigts de Foxconn. Là où on peut dire Apple est un peu hypocrite, et moi là je rejoins les analystes, c'est que il est facile quelque part de dire à ton fournisseur, hey mec, tu te démerdes comme tu veux, mais je veux 550 000 unités par jour, tu te démerdes comme tu veux, sinon tu perds le contrat dans les 5 ans à venir, on passe ailleurs. Et derrière dire ah non mais attends t'avais pas le droit de prendre des étudiants en stage pour arriver au stock que je te demandais tu vois il y a une légère forme alors quelque part Apple n'est pas le seul à le faire et tout le monde pratique ça dans l'industrie hein. On force sur les fournisseurs et derrière on va leur faire la leçon sur leur méthode de
sur
production
ouais.
c'est facile pour une entreprise enfin c'est facile. On va dire pour une entreprise chinoise qui a un niveau d'exigence de la part de son acheteur énorme de glisser vers des choses un peu illégales. Quoi.
La tentation est forte en tout cas.
Ouais, ouais, la tentation est forte et c'est vrai que les régulations du marché au travail en Chine laissent encore un petit peu à désirer. Et non, mais j'ai pas dit que c'était bien. Oh là, ça y est, il y en a qui se réveillent, genre, ah, mais t'es en train de dire du bien d'Apple. Je dis pas que c'est bien, au contraire. J'ai dit, c'est une attitude hypocrite de la part d'Apple de dire d'un côté, c'est pas bien que Foxconn les produise comme ça, et en même temps, de mettre la pression sur le fournisseur. C'est un peu hypocrite.
Le problème, c'est pas Apple, c'est les consommateurs. C'est les
bah,
deux.
On
c'est
peut,
Apple qui encourage un certain comportement de consommation. Qui va à l'encontre de tout ce qui est recyclage, responsabilité de consommation, etc.
Bah, quelque part, là, on a une responsabilité, c'est qu'on est là à pleurer notre mère parce qu'on aura notre iPhone deux semaines après.
Mais c'est,
donc
là,
oui, on a notre part de responsabilité.
Bien sûr, c'est ce que je dis, la responsabilité, elle est partagée entre Apple qui encourage ce type de comportement et nous qui mordons à l'hameçon. Hein.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, c'était juste pour dire... Après, c'est presque deux sujets séparés. Mais en tout cas, non, l'iPhone, il y a une très grosse demande, très soutenue avant ces fêtes de Noël. C'est un téléphone, malgré son prix, qui se vend extrêmement bien. Et Je dis encore une fois, malgré son prix, parce que je continue à le trouver trop cher pour ce qu'il fait, je peux quand même dire, maintenant que je l'utilise depuis un mois, et toi, tu l'as depuis quoi? Depuis 2 semaines, maintenant, ton iPhone 10?
Oui.
C'est quand même une très bonne cuvée. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu un aussi bon smartphone. Je le dis honnêtement, j'ai jamais eu un aussi bon smartphone. Toi, qu'est-ce que t'en penses en 2 mots?
Je suis contente de l'avoir.
Mais, alors, critique, vas-y, qu'est-ce qu'il y a de pas bien?
Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien?
Il y a des trucs, je t'entends
pester. Le control center, c'est insupportable.
T'aimes pas le control center?
Non, ce que j'aime pas, c'est que j'avais un raccourci pour mes lumières. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le petit maison ici. Pour mes lumières UE. Enfin, You. Désolé, moi je les appelle UE. Et en fait, maintenant c'est super loin. Avant, quand j'avais le control center, j'avais juste à lever. Et ça, ouais. C'est iOS 11 aussi. Qui a rajouté une distance supplémentaire avec...
Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse personnaliser l'écran d'accueil où il n'y a que caméra et lampe de poche. Si là, tu pouvais avoir un raccourci et longue presse pour tes You, ça serait bien. Ils ont potentiellement, c'est faisable.
Mais je n'ai pas envie d'un longue presse, en fait, pour ça. Je veux voir directement mes scénarios. Si j'ai maison, c'est mes lumières. Enfin, à un moment donné... et puis, le fait que ce soit sur le côté là, ce n'est pas pratique.
Tu iras parler avec Johnny, hein.
Non, bah, tu me demandes mon avis et oui, dire un truc négatif.
Non, mais t'as raison. Après il y a plein de gestions. Par contre, pour aller contre ton argument, il y a plein de trucs, je trouve, où l'accès est beaucoup plus rapide qu'autrefois avec le Touch ID. Il y a des choses où on y accède beaucoup plus rapidement, et notamment tous les trucs où il faut des authentifications. Maintenant qu'elle est automatique avec le Face ID, je vais beaucoup plus vite sur ma banque, sur...
Oui et non. Tu vois, justement, l'intégration du Face ID, je trouve que N26 l'a bien faite. Parce qu'en fait, tu dois accepter, donc cliquer sur un bouton qui dit « s'identifier avec Face ID ». Pour pas que quand tu ouvres l'application, ça se déloque obligatoirement.
Alors, pour la banque, je suis d'accord d'avoir cette protection, mais par exemple, Dropbox, ça me faisait
non,
chier.
Je parle pour la banque.
Oui. Mais
c'est bien spécifique.
Il y a d'autres applis comme 1Password qu'on utilise beaucoup. Avant, c'était chiant de devoir faire un Touch ID à chaque fois que tu l'ouvrais parce qu'il se referme à chaque fois. Maintenant, il te fait un Touch ID, donc il est beaucoup plus facile. Un Face ID, donc il est beaucoup plus facile à utiliser.
Alors, oui, le Face ID est plus transparent que le Touch ID, mais c'était pas chiant le Touch ID, il faut pas abuser. Non plus.
Ça demandait contre, de toucher ton téléphone.
Ah mon Dieu. Mais c'était dans les usages.
Elle te moque pas de mes arguments, non, je me moque pas des tiens.
Je suis d'accord. je suis d'accord sur le fait que Face ID soit plus transparent que le Touch ID.
Pas transparent, rapide.
Oui, enfin, seamless quoi. En gros, tu le sens pas dans l'expérience, donc transparent. Mais en même temps, ça crée des nouvelles problématiques sur la bonne intégration de la fonctionnalité sur des applications qui requièrent une certaine sécurité. Type application de banque. C'est pas parce que je l'ouvre que j'ai peut-être pas eu le temps de checker, que j'ai pas quelqu'un qui regarde mes comptes derrière moi et j'ai pas envie qu'il se déloque automatiquement.
Oui, mais d'ailleurs, c'est bien que les banques demandent une étape.
Ouais, mais il y a que N26 pour l'instant qui l'a bien fait. Donc il y a quand même une réflexion de comment bien intégrer cette sécurité de Face ID vu que c'est passif. Vis-à-vis de l'utilisateur. Et là, ils ont réintégré une autorisation active, une action active de la part de l'utilisateur.
Non, mais elle a raison, elle a raison, elle a raison. Elle a raison.
Enchaîne.
C'est à moi ou c'est à toi?
Tu parlais de quoi? iPhone X, c'est à moi.
Oui, c'est à toi. elle a toujours raison, Marion.
C'est affreux, la grille, moi, ce que tu fais. Team Marion, tu vois.
Ouais, Team Marion. Non, mais c'est de toute façon. Mais moi aussi, Team Marion à fond. Pas de problème.
donc, on va taper sur les doigts d'Hubert cette fois-ci et pas de Jérôme. Il faut varier un petit peu.
Le plaisir.
Mais c'est pas moi qui tape sur les doigts d'Hubert, c'est plutôt le gouvernement français. Et notamment une petite lettre qui a été envoyée, bien envoyée par Mounir Majoubi, le secrétaire d'État responsable du numérique. Et donc tout simplement...
J'aime bien le secrétaire d'État responsable, on dirait, tu sais, qu'il est bio. On a fait un secrétaire d'État qui est élevé en plein air avec du grain. Il est responsable.
Il est bien nourri.
Il est bien nourri.
Il
se balade dans la forêt et tout. Il y a tout un circuit éthique pour ce ministre. Alors que les autres sont un peu industrialisés.
Il a un enclos en plein air. Comme
voilà,
ça,
exactement.
Bref,
on délire.
Et donc, qu'est-ce
qu'il
s'est
passé? Il est dodu. Ouais, qu'il est un petit peu dodu.
Hein. Vrai, c'est pas vrai.
Non, mais bien. Bien, dos du bien.
On va pas discuter sur l'aspect physique du secrétaire d'État, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, on va parler plutôt de ses actions. C'est quand même un peu plus intéressant pour le poste qu'il a. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a pris des actions suite à la révélation de la faille de sécurité qu'il y avait eu chez Uber. Et donc, elle a eu lieu, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, elle a eu lieu il y a un an, hein, donc ils ont mis le temps, c'était en octobre 2016, ils ont mis le temps pour le dévoiler. Et justement, elle a été camouflée. Et donc, suite à ça, ils se font taper sur les doigts. Donc là, le nouveau CEO, il doit en avoir un peu marre parce qu'il n'était pas au courant de ça et il se prend un peu en pleine gueule.
Il y a des articles qui disent qu'il était au courant il y a déjà 2 mois, mais qu'il a pris le temps pour annoncer, mais qu'il l'avait pris.
Au courant, il y a 2 mois, ça reste
oui, ça reste
pendant
10 mois. Non, non, mais c'est sûr qu'en gros, on lui a refilé. Enfin, il a hérité d'un bon paquet de merde.
Exactement. Ouais. Je pense qu'il devait s'en douter, mais bon, voilà, on ne peut pas lui reprocher de l'avoir camouflé pendant 2 mois pour savoir comment gérer l'incident. On peut lui reprocher par contre de comment avoir géré la divulgation de l'information et notamment auprès de ses clients. Là, on peut reprocher. Et justement, c'est un de ces reproches qui a lieu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'ampleur de la taille. On sait qu'il y a 57 millions de comptes qui ont été piratés et donc dont les informations ont été piratées, donc notamment identité, numéro de téléphone, adresse email, donc c'est quand même des informations graves, mais pas des informations de paiement non plus, pas des informations de localisation et de trajet, donc c'est déjà ça. Mais par contre, on ne sait pas qui est touché. C'est-à-dire, on ne sait pas quels sont les pays de toucher. Les clients n'ont pas été prévenus. Toi, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas reçu de mail
non,
de la part d'Uber
ouais.
Pour m'avertir que mes
données... Changer mes mots de passe
exactement.
Ou quoi que ce soit. Hein.
Et donc, c'est là où on tape un peu sur Uber, et notamment Mounir Majoubi, qui a envoyé une lettre leur demandant plus d'explications et plus de transparence.
On peut même dire on battre l'Uber. Battre le beurre. Battre le... Bon, pardon, excusez-moi.
C'était le moment blague de Jérôme. et donc voilà, il demande des explications. Et pour rappel, en 2018, d'ailleurs, il y aura une régulation bien plus dure lorsqu'une faille est dévoilée et la société est tenue de prendre des actions d'information auprès de ses clients, ce qui est plutôt normal, et notamment prévenir aussi la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL évidemment, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Puisque normalement, avec eux, on est censé coordonner les efforts. Voilà, donc on risque d'avoir des informations prochainement, mais c'est un petit peu étrange, je trouve, comme manière de faire,
oui.
D'avoir toute la presse tech qui parle de la faille et en tant que client, n'avoir aucune information. C'est un petit peu déstabilisant. Et moi,
oui.
J'avoue, je me suis fait la remarque la semaine dernière de ne pas avoir reçu d'email. Donc, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas, en tant que client, où est-ce qu'on se situe vis-à-vis d'Uber. Et du coup, ça ne donne pas vraiment envie de rester avec le service.
Tout à fait, tout à fait. On enchaîne.
Là, le Saint-Uber.
Le Saint-Uber, pas mal, pas mal. Qui est l'ingénieur français qui se cache derrière les révélations qu'on a eues ces dernières semaines autour des failles Wiko et OnePlus, hein, on en a parlé déjà dans l'émission, effectivement, des données qui seraient échangées. Et alors, on ne connaît pas son nom, enfin, c'est Baptiste, mais on ne connaît pas son nom de famille. C'est un jeune ingénieur de 28 ans. Qui officie sur les réseaux sous le pseudo, et certains reconnaîtront, d'Eliot Alderson, qui est le personnage de Mr. Robot, en fait. Tu sais.
Ah oui, la Yuri.
Ouais, je me moque. Hein,
il paraît qu'il joue bien.
Ouais, non, il joue bien. Et tu sais qu'il va jouer Freddie Mercury dans...
Ah bah oui,
ouais.
C'est bon. Non mais,
okay,
excuse-moi, comme je suis les actualités de musique, c'était un peu l'annonce où on voyait les pseudo-photos où il se tape la pose à la Freddie Mercury.
À la
là,
Freddie Mercury, d'accord. Bref. Tout ça pour dire, effectivement, donc Eliot Alderson, sous son pseudo, est celui qui a commencé effectivement à révéler ses histoires, notamment, effectivement, Wiko et OnePlus. OnePlus qui s'est fendu effectivement d'un communiqué autour de ça en disant qu'ils allaient changer leur système, etc. Wiko qui a un peu empêtré encore. Ce que dit cet ingénieur, et il dit le truc, c'est et c'est ce qu'on vous dit hein, souvent hein, dans TechScope, il dit n'oubliez pas et n'oubliez jamais que les données personnelles des utilisateurs sont une marchandise à part entière qui a une forte valeur. Et on vous le dit souvent dans l'émission, n'oubliez pas que vos données ont de la valeur et que ces fameux services gratuits ne le sont pas. Vous échangez vos données contre des services gratuits, mais dans le cas d'un smartphone, on peut se poser la question. Et justement, lui, ce qu'il aimerait mettre en exergue avec ses révélations, c'est justement ça. C'est bien beau d'acheter des téléphones vraiment pas chers, hein, et que ça soit des OnePlus ou des Wiko, c'est vraiment pas cher comme smartphone. Mais on peut se demander comment ces entreprises font de l'argent. Parce que du coup, font très très peu de marge sur le hardware, donc il faut bien qu'ils fassent de l'argent ailleurs. Donc la tentation est forte pour ces entreprises, notamment chinoises, de faire de la revente de données dans des pays en plus qui ne sont pas sous... Puisqu'on le sait, les données de Wiko sont envoyées en Chine, là où le marché de la vente de données n'est pas réglementé comme en France. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils font obligatoirement, mais c'est quand même une question à se poser avec cette recherche absolue du smartphone le moins cher. Il y a un moment, quand le prix est moins cher que le prix des composants, on peut se demander comment une entreprise fait de l'argent. Donc, peut-être, voilà, un élément de réflexion, effectivement, à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un iPhone en vous disant « Ah, en payant 1000 euros, mes données sont sauvegardées. » Mais quand même, on peut se poser la question. En tout cas, ce jeune homme a bien l'intention de continuer. Ce n'était pas son projet initial. Il pensait pas que ça allait faire autant de bruit, mais il s'est trouvé un cheval de bataille, en tout cas avec ses histoires, et il continue ses investigations, effectivement, dans le monde du partage de données, pour pouvoir faire des révélations.
Certes, mais inversement, ça ne veut pas dire qu'un téléphone cher ne le fait pas.
Oui, c'est ce que
pas.
Je disais. Ouais. Voilà. Ouais. Après, bon, on va pas redire ce qu'on dit sur Apple. Apple n'a pas d'intérêt marketing à vendre directement vos données puisqu'ils sont trop en retard sur ce marché-là et qu'ils ne l'aborderont jamais, à mon avis.
Maintenant, ils disent comme un argument.
Voilà, c'est un argument de vente pour eux de dire on protège les données personnelles.
On en parlait la semaine dernière lorsqu'on avait appris qu'Android envoyait des informations de localisation.
Tout à fait. En tout cas, toutes ces histoires sont insues. C'est bien qu'il y ait une prise de conscience. C'est comme toutes les prises de conscience. Elle est un peu violente et il y aura des excès, des débordements. Mais c'est bien qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. T'as plus d'article, toi ? Mais comment j'ai fait mon sommaire ? Parce que... Ah, j'ai du mal faire le sommaire. Je vais peut-être le faire quand même, le dernier article. Où t'es à l'aise avec... Ou tu trouves toi un article
non, là, non, mais non, mais j'ai bien compris.
Mais,
hein,
non, mais attends, on en a oublié.
J'ai raté une news ou quoi ?
Alors, attends. Toi, t'as fait Bitcoin. Ah oui, normalement, j'aurais... Mais non, j'ai fait que 3 articles, moi. Où est-ce qu'on s'est planté ? T'as commencé par le Bitcoin.
T'as enchaîné avec... Cyber Monday.
Mais c'était pas un article.
Ben oui,
c'était
mais...
C'était les annonces.
Ben, moi, j'ai cru que c'était un article. Du coup, après le Cyber Monday, j'ai recontinué.
Ah ouais, donc c'était bien, moi. Je m'étais pas trompé.
Mais j'avais pas compris tout à l'heure.
Je m'étais pas trompé tout à l'heure. Je m'étais pas trompé.
Non, mais vous notez-le. Hein.
Marion s'est trompée. Marion a fait une erreur. On va prendre la date. Nous sommes le lundi 27 novembre 2017. Marion a fait une erreur. À noter.
La prochaine fois, tu informeras quand c'est une annonce ou un article.
Ah, on fait toujours les annonces après le premier article. Ça a jamais changé.
Il n'y a pas tout le temps des annonces.
Bah là, Cyber Monday, c'était des annonces. C'était clair.
J'ai cru que c'était un article, moi. Toutes mes excuses.
Bref, et Samuel, Samuel avait bien dit, selon l'ordre du Texcope, c'est à Jérôme. Mais j'ai pas relevé, je me suis dit, ok, je me suis gouré.
Là,
avec
le flèche en plein, là, il va.
Voilà. Ça tourne mal. Bon. Si tu veux le faire, fais-le, le dernier article.
Non, je t'appuie.
Tu me le laisses.
Ah bah oui, tu serais trop content de le faire, là.
Je suis pas trop content, c'est rigolo. C'est rigolo. Microsoft, vous savez sur quoi ils bossent en ce moment et sur quoi ils ont déposé un brevet ? Eh bien, c'est pour pouvoir activer le mode privé directement quand vous consultez un site porno. Ça serait bien pratique. Au lieu de devoir penser chaque fois que vous allez voir un site porno, parce que je sais que vous le faites, et vous le faites... Les filles aussi, vous le faites. On le sait. Et parfois, on oublie, ça aussi on le sait, hein, Jérôme, que tu oublies de mettre ton onglet navigation privée. Hein ? Oh merde,
Révélation du matin.
J'ai oublié de mettre mon truc. Donc, ça peut arriver, voilà, hein, sur un coup de tête, hein, et on oublie de mettre son onglet navigation privée, et boum.
Jamais.
Et boum, c'est dans votre historique de navigation, à la vue de tous, que vous êtes allé voir votre site porno. Alors j'adore l'illustration de l'article pour la consultation des sites porno. Voilà, hein, nous avons un chat, effectivement, qui a l'air de bien aimer ce qu'il voit, en tout cas.
Les chats rois de l'Internet.
Bref, le problème, c'est donc qu'on oublie parfois d'enclencher son...
Ah, j'ai dû expliquer à mon ex que c'était la navigation privée et que ce serait cool qu'il C'est très bon, ça.
Ah, c'est vrai que, ouais, c'est... Parfois, ouais, il y a des trucs. Mais alors, moi, le plus drôle, c'était à l'époque où je faisais...
Nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on utilise chacun nos
devices. Et quand on ne s'espionne pas nos historiques.
Non.
Moi, le plus drôle, c'était à l'époque où je faisais Scuds, où pour illustrer l'émission, parfois, j'étais obligé de faire des recherches Google, genre... bébé unijambiste, des trucs, et puis limite scabreux, bah on illustrait, t'as connu Scuds,
Oui.
Et du coup j'avais des recherches Google, laisse tomber quoi.
J'imagine les recommandations ensuite.
Ah ouais, j'ai vu des trucs, je ne suis pas sorti vierge de cette expérience, ça c'est clair. Bon, en tout cas c'est une bonne nouvelle, Microsoft travaille là-dessus, alors pour l'instant c'est qu'un brevet, est-ce qu'on verra ça débarquer sur Edge? Ça marchera, effectivement, il y aura un certain nombre de sites qui seront flagués comme du contenu qui vaut mieux regarder en privé, en navigation privée que d'autres, mais ça peut être bien pratique. Donc pourquoi pas, bravo Microsoft, il est 9h01, on est presque dans les temps Marion. Pas mal.
Merveilleux.
Pas mal.
Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de TechScope. J'espère que ça vous a fait commencer la semaine du bon pied. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous souhaite une excellente journée et bon courage pour le travail. Et puis pour ceux qui peuvent rester un peu avec nous, eh ben on va pouvoir prendre les questions. Et je crois que tu as une question Platinium.
Ah bon ?
Non, il me semble que... Ou je sais peut-être
Samuel, est-ce qu'il y a une question Platinium ?
C'est peut-être l'ordre qui ne s'était pas actualisé quand...
Si, il y a une question Platinium. Voilà. J'avais pas réactualisé mon flipboard. Alors, question Platinium par notre ami... Platinium par notre ami Dédé Levallois.
Vendredi, c'est férié. Absolument pas.
C'est férié,
vendredi ? C'est pas férié, vendredi.
C'est quoi ce bruit ?
C'est pas férié vendredi là, fais pas une fausse joie.
Vendredi c'est férié? What?
Il y en a un qui a dû poser un congé ou c'est férié pour lui et il nous fait...
La Saint-Nicolas? Mais c'est pas férié la Saint-Nicolas.
C'est pas férié.
Hein. Ah mais peut-être dans un... Pas en France en tout cas.
Oui, en France en tout cas c'est pas férié. Hein.
Ah ouais, pour la Lorraine?
Ah, la
en Belgique? À l'Est peut-être? En Alsace?
En Alsace c'est férié?
Non, mais ça va pas, non, mais les Alsaciens, vous allez bosser, hein. Moi, je veux mes bretzels à Noël, hein. C'est le mec qui a une vision.
Bref.
Je vais appeler mon copain Olivier Schmitt pour lui dire de bosser vendredi.
Donc, la question...
En Moselle aussi. Ok, la question. Bonjour Jérôme, peux-tu nous dire ce qu'apporte la 4G à ton Apple Watch avec 2 mois de recul, gadget ou vrai progrès? Alors, je dirais 2 choses, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je vais garder, pour l'instant, mon abonnement à la 4G avec la Watch est gratuit, mais dans 3 mois, il ne le sera plus, il sera à 5€ par mois. Je pense pas le renouveler, mais pourquoi? Parce que je suis pas un sportif. Je pense que le forfait 4G est bien si tu vas faire du sport et que tu veux pas amener ton smartphone. Néanmoins, si un jour, je me retrouve, qu'on m'a volé par exemple mon smartphone, ou que je me retrouve dans une situation où je n'ai plus mon smartphone, peut-être que je regretterais de ne pas avoir gardé cette 4G, parce qu'on peut vraiment passer des appels, et pas que d'urgence. Il y a une histoire que j'ai faite la semaine dernière d'un mec qui s'est retrouvé au milieu des requins, et il avait son Apple Watch sur sa planche de surf, et il a pu appeler les gardes-côtes pour qu'ils viennent le chercher grâce à son Apple Watch. Ça peut arriver, je ne fais pas de surf, il n'y a pas de requin, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Alors voilà, en gros, à 5€, je trouve ça trop cher. À 2-3 euros par mois, je crois que je prendrais l'option de la 4G sans ma montre. Vraiment pour des occasions peut-être assez uniques.
La tête de Marion. Oui, bah tu sais, moi, l'Apple Watch, ça me passe là. Hein.
Ah oui, non, Marion,
Ça me
l'Apple
passe même.
Watch. Ouais. Donc, c'est quand même un progrès, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est
Ça peut
les
sauver des.
opérateurs. Il faudrait que les opérateurs les offrent avec le forfait.
Donc ça peut sauver des requins-guêpes, quoi.
Ça peut sauver d'une attaque de requin-guêpe. Non, mais en fait, moi, j'aimerais que ça soit gratos. Mon forfait, je le paye quand même assez cher, monsieur Orange. Vous pourriez inclure l'abonnement à l'Apple Watch dedans. Parce que
Il y a
franchement.
les requins-guêpes partout dans les commentaires.
Ouais.
Oui, mais une horde de chihuahuas d'une vieille dame de ton immeuble qui essaie de te monter sur les pieds, ça peut être
Ben
dangereux.
oui, il faut penser à toutes ces situations-là. Non, pour être plus pragmatique, la situation où on te vole ton smartphone. Pour pouvoir appeler, quand même, voilà, ça peut dépanner, quoi.
Pas de requin, mais un chat, c'est pareil, non?
Pas de requin, mais un chat, c'est quand je me fais attaquer par les chats. Allez, on va prendre les questions.
Vous pensez quoi de Sophia, la nouvelle IA? J'en ai pas entendu
Euh,
parler.
j'ai, j'ai vu des articles, mais j'ai pas vraiment lu dessus.
Elle vient d'où?
Repose la question, je sais plus.
D'accord.
J'ai vu juste des
On
titres
n'est pas à
d'articles
jour.
là-dessus. Ouais, on n'est pas à jour là-dessus.
Ça marche à l'étranger, la 4G de l'Apple Watch?
C'est pointu comme question. Je pense que ça dépend quel étranger. En Europe, probablement. Aux États-Unis, ça m'étonnerait, par exemple. Ils te volent ton iPhone, ils repèrent que tu sonnes avec ta watch et ils reviennent pour finir de voler ta montre. Oui, ça peut arriver.
Bon anniversaire, Flomassol. Merci, Nazado, pour l'information.
Ah ben, bon anniversaire,
Très bon
Flomasol.
anniversaire à toi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, on prend les questions de la chatroom maintenant.
Sophia est passée au Jimmy Fallon.
Ah oui, ça y
Elle
est,
possède
oui.
la nationalité émir. Ah
Oui,
oui!
je
Le,
vois, ouais.
le, le, la.
Mais j'ai pas vu la démo, donc je pourrais pas donner d'avis en fait. J'ai pas eu le temps de regarder ça.
Comment se faire de l'argent de poche avec ces photos?
Bah, tu peux essayer les banques d'images, mais il y en a beaucoup qui essayent. Il faut vraiment prendre des bonnes photos pour que tu les vendes en banque d'images. Mais tu peux essayer les banques d'images.
Quelle limite de data sur les forfaits Apple Watch?
Alors là, tu me poses des questions trop techniques. Je sais plus, hein, Mathias. Je pense, comme c'est lié à ton forfait, c'est le. Oui, non, si, je sais. C'est
Ça prend sur ton
exactement.
forfait, oui.
C'est ton forfait. C'est pas un forfait à part, hein, pour l'Apple Watch, hein. Donc ça dépend.
Tu
Tu
fais
fais
une
une
vidéo
vidéo du deuxième
DxOne.
DxOne. Je vais essayer Nazado. Je ne fais plus aucune promesse sur les vidéos parce que j'arrive pas à les
C'est
tenir.
bizarre que le DxOne s'appelle DxOne si c'est la deuxième génération.
Non, il n'y a pas de deuxième génération. C'est juste des mises à jour du DxOne qui, pour moi, font dire que c'est devenu un appareil assez différent.
Nazado, tu m'as induit en erreur. C'est ta faute. Non, je
Voilà.
rigole.
Fais gaffe, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question?
Quel téléphone pour aller sur Android dans un budget de 500 euros? Mon iPhone 7 et sa batterie me saoulent.
Sur Android, bah, y a des bonnes occasions sur les S7 et les S8
Ouais,
de
c'est ce
chez
que j'étais en train de me
Samsung.
dire, ouais.
S7, S8, Samsung,
Ça a dû
peut-être.
bien
Ouais.
baisser.
Après, il y a des bonnes critiques sur le OnePlus 5T. J'ai vu qu'il y avait des bonnes critiques dessus, donc là tu peux encore pour 500 euros. Peut-être le One. Moi je ne l'ai pas testé personnellement, donc je ne peux pas te dire ça. Mais le OnePlus 5T, ouais, est pas mal.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres
On va pas
questions? Ouais,
tarder.
on va pas tarder à vous quitter.
Alors, est-ce que...
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'en avez plus. Ah oui, dernier jour, effectivement, pour l'affiliation à Pixedo. Hein, merci Samuel d'avoir remis les liens dans la chatroom. Donc, le code de réduction NowTechBF10 sur le site Pixedo. Et le lien d'affiliation, c'est bit.ly/ntpixedo. Si vous voulez faire des achats photos et vidéos.
Quelqu'un a des news du bug de Activision en réseau.
Ah non.
Ça me dit rien.
Désolé.
Tu penses quoi de la série Silicon Valley?
Moi
Je pense
j'aime
que ça sera la
beaucoup.
dernière question qu'on
Ouais.
prend aujourd'hui.
Moi j'aime bien Silicon Valley.
Oh,
Je
c'est
regarderai
sympa.
avec plaisir. C'est
C'est
sympa.
sympa.
Il
C'est
y a eu
bien
des saisons
ironique.
inégales,
Ouais.
mais L'année dernière était pas mal. Enfin, les derniers épisodes qu'on a regardés étaient assez drôles.
Ouais, et puis ils sont très d'actualité par rapport à l'actualité de la Silicon Valley et ce qui s'y passe et les bêtises qui s'y passent. N26, pour un étudiant, votre avis sur cette banque? Moi, j'adore.
Ouais, très bien.
Moi, j'adore.
Juste, et ça sera vraiment la dernière. Un Canon 77D ou Panasonic GX8. Moi, je te conseillerais un Panasonic, mais tu auras un capteur plus petit, mais j'aime beaucoup plus l'univers Panasonic qui est beaucoup plus généreux que l'univers Canon où tu vas payer très cher pour des résultats qui ne seront pas tellement, tellement supérieurs. Voilà. Pour mon avis.
Allez-vous tester la Fire TV Stick qui est géniale?
Non, je pense pas.
Et puis tu dis que c'est mieux Chromecast, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est difficile de comparer deux éléments qui sont pas du tout sur le même secteur.
Sur ce, on vous fait de gros gros bisous. Passez une excellente journée. Et on vous souhaite d'être là demain matin à 8h. Ça sera moi qui présenterai. On sera mardi. Ouais. Et passez une bonne journée. Soyez productifs. Ou alors, reposez-vous bien si vous êtes en vacances. On vous embrasse. À demain.
Très bonne journée. Ciao. Bye bye.